Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir ce soir et vous venez d'entendre Ursula sur Radio Libertaire, évidemment 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc Jeudi Noir ce soir va vous parler d'un livre de Murray Bookchin qui s'appelle La Révolution à venir, qui vient d'être édité aux éditions Agon, sous-titré Assemblée populaire et promesses de démocratie directe. La collection Contrefeu, donc des éditions Agon. C'est Michel qui va nous présenter un peu ce livre ce soir. Vous venez d'entendre Ursula K. Le Guin et Todd Barton sur un morceau qui s'appelle Yes Singing. Voilà. Alors Michel, donc qu'est-ce qui t'a amené à nous parler de ce livre et à donner envie à nos auditeurs de le lire?
Ah, le désœuvrement.
L'oisiveté, qui, comme chacun sait,
est la source de tous les vices. Ouais. Et puis le fait que, justement, comme José est toujours d'une pertinence absolument phénoménale et, comment dire, c'est un sniper, quoi. Ouais. Il se trouve que Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises avec José dans nos petits marathons de livres, a écrit aussi la préface de l'ouvrage.
Ok, nous y voilà.
D'où la petite référence. Okay. Alors c'est un livre dont je pourrais vous dire beaucoup de choses, en particulier que sa couverture est rouge.
Oui, c'est vrai que c'est souvent, je reconnais bien ta méthode de lecture serrée.
mais ça a son importance. Oui. Et donc... Alors Bookchin, on en a déjà souvent parlé, c'est comment dire, c'est un auteur américain, new-yorkais, qui part du communisme, qui passe par l'anarchisme et qui finit dans le communalisme. Quant à Le Guin, on en a parlé, on voudrait faire une émission sur elle pour ne serait-ce que parler de son roman Les Dépossédés, okay, où elle imagine une communauté anarchiste. Et donc elle a préfacé ce livre qui a été publié récemment chez Agone, parce que c'était aussi une question d'actualité. C'est un livre qui vient d'être publié, qui a été publié cette année là il y a quelques mois. Et alors
peut-être deux mots encore sur l'auteur, parce qu'on a déjà présenté plusieurs de ses livres dans l'émission.
On a déjà fait 2-3 émissions sur lui, je crois.
Ouais, il me semble que il y a pas si longtemps que ça, on avait parlé d'un livre dans lequel il critiquait en fait les mouvements anarchistes qui étaient centrés plutôt sur la question des modes de vie plutôt que sur celle de la politique, hein, pour dire les choses. Il me semble avoir chroniqué aussi il y a quelque temps dans l'émission son livre sur le municipalisme libertaire, qui est un système effectivement de d'organisation sociale. Et il est un peu dans la tradition des théoriciens anarchistes du 19e, hein, ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire, ils pensent des systèmes d'organisation et d'organisation politique dans la tradition anarchiste, donc, et avec effectivement un objectif de démocratie directe, d'assemblée populaire, et notamment à l'échelle communale, hein, d'où effectivement le terme de communalisme que tu utilisais tout à l'heure. Il me semble également que c'est en fait l'auteur de référence officielle des autonomistes kurdes aujourd'hui, la référence de l'organisation sociale mise en place notamment dans la région du Rojava, hein, si je me trompe pas
complètement.
Et donc effectivement, à tous ces titres, c'est quelqu'un d'intéressant. Alors c'est quelqu'un qui est mort, hein, il me semble.
Il est mort début des années 2000.
Début des années 2000.
Il était né dans les années 20 à New York.
Et donc il a traversé effectivement toute la deuxième moitié du 20e siècle et développé ses théories dans différents mouvements révolutionnaires là que tu as mentionné tout à l'heure. Donc dans ce livre là en fait, l'enjeu est autour de quoi alors du coup?
Ah, peut-être que je pourrais le présenter de façon un peu comment dire, peut-être déjà un peu dans le contexte français, peut-être, ouais. Je ne sais pas, parce que en France, très très souvent, on a l'impression que ce qui compte le plus, en particulier dans la philosophie, c'est la politique. Et en même temps, on a très très peu de philosophes à proprement parler politiques. Alors ça peut sembler être une aberration, ce que je vais dire, parce qu'on va dire, ah mais Michel Foucault.
Tu parles de philosophes militants.
De philosophes qui, d'une certaine manière, s'investissent dans le domaine politique et proposent quelque chose en politique. Et si on regarde bien, que ce soit Rancière, que ce soit Badiou, que ce soit Foucault plus avant, d'une certaine manière, on n'a aucun philosophe politique, c'est-à-dire quelqu'un qui propose un système d'organisation sociale, économique, culturelle et autres. C'est plutôt, soit ils vont, comme Badiou, nous faire une apologie de la révolution culturelle et des ensembles mathématiques. Trouver un lien si vous voulez. Soit ils vont critiquer le modèle libéral actuel, mais d'une certaine manière, personne ne nous propose, en France en tout cas, ou parmi les philosophes connus, une espèce de système, en disant voilà comment il faudrait vivre et voilà comment il serait mieux de vivre. Et donc on a à la fois l'impression d'être à la pointe de la réflexion politique, de la philosophie politique, et en même temps on n'a rien qui s'apparente à ce qu'on peut voir aux États-Unis sous la plume de quelqu'un comme John Rawls, qui présente en réalité les bases d'un système politique libéral, ou d'un Nozick qui propose les bases d'un système politique ultra-libéral, libertarien, etc. etc. Et donc c'est assez curieux parce que le bouquin de tous ces bouquins-là, quand on les lit en tant que Français un petit peu habitué à la culture de la philosophie politique française, on se dit mais c'est quoi ces gens, quoi ? On a l'impression qu'ils nous parlent depuis le 18e siècle. Ce qui fait que assez curieusement, ça fait des livres qui sont un peu chiants. Ça veut pas dire que c'est pas des livres qu'il ne faut pas lire.
C'est des livres programmatiques.
C'est des livres un peu programmatiques. Et alors, de ce point de vue-là, il faut faire une espèce de pas de côté, c'est-à-dire si jamais dans votre parcours militant ou intellectuel, vous avez lu les programmes, d'un des amis de Bakounine, c'est pas Jean Grave, c'en est un autre jurassien. Qui avait inspiré les Jaime Guillaume, qui avait inspiré les communes espagnoles dans les années 30. Bon bah d'une certaine manière, vous avez ça de nouveau avec avec Bookchin ou Bookchin, je sais pas comment ça se prononce. Bon, peu importe. José
a une option sur Bookchin.
Bookchin. Ouais. Et donc voilà, et donc c'est ça. Le gars, c'est programmatique. Et il va essayer de proposer. Alors, il cherche pas à dire quel type de vêtements vous devrez porter dans la nouvelle société libre et quel type de coiffure vous devrez avoir. Ça, il s'en fout complètement. En revanche, il essaie de poser des bases sur qu'est-ce que devrait être une société vivable, rationnelle et agréable, je dirais. Ce qui est plutôt un bon programme en soi. On peut pas trop se plaindre. Et une chose donc que peut-être vous n'ignorez pas, c'est que Bookchin a, comment dire, fait partie de ces gens qui ont très très tôt réfléchi à l'écologie, à l'importance de la préservation de l'environnement naturel, et qui ont essayé d'organiser une réflexion finalement conjointe de critique du capitalisme et de valorisation de l'écologie. Ce qui, malgré tout, alors peut sembler une évidence, je sais pas.
Bah pour tout le monde, hein.
Pas pour tout le monde, semble-t-il. Voilà, oui, parmi les écologistes.
On va pas citer des noms sur l'écologie politique.
C'est ça. Française. Mais bon, en tout cas, pour. Alors, je pense qu'il prend là un peu la tradition politique française à revers, parce que, d'une part, pour lui, notre société capitaliste est complètement irrationnelle, et gagnerait à être davantage rationnelle.
Alors, en quel sens, du coup, irrationnelle ?
Irrationnelle, dans un sens écologiste classique, c'est-à-dire, globalement, exploitation de l'homme par l'homme qui rend les gens malheureux, exploitation de l'homme par l'homme qui implique et suppose l'exploitation de la nature par l'homme, qui implique. La destruction de la nature et la disparition de l'être humain fondée sur une espèce de quête du profit sans fin et d'exploitation sans fin qui est insoutenable. Et donc là-dessus, pour lui, il y a une irrationalité fondamentale de la société. Alors ça, je pense que c'est déjà un premier point qui pourrait nous éloigner en France de Bookchin. C'est-à-dire qu'il fait pas partie de ces gens qui croient que notre société est trop rationnelle, qu'elle souffre de trop de rationalité et qu'elle gagnerait à l'être moins. Au contraire, là-dessus, c'est un héritier des Lumières pures et dures. Il pense qu'il faut plus de rationalité. Je suppose qu'on l'a déjà dit dans cette émission.
Ça m'est familier. Je pourrais pas te citer une date.
José devrait pouvoir le faire. Mais il va nous citer 5 ou 6 dates, je pense, avec un air ironique, en se moquant de nous. 1932, dit-il. Et donc ça, c'est un premier truc. Et là-dessus, donc, je pense que c'est important, parce que son projet communaliste s'insère aussi dans cette pensée écologiste. Et alors, dans le livre...
Et je sais pas peut-être comment t'as prévu de présenter le livre, mais sur le projet communaliste, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
Alors, il y aurait plein de choses à dire. Ouais. Malgré tout, là, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que justement, le premier chapitre s'intitule Le projet communaliste.
Ouais.
Et il va commencer par montrer justement un petit peu ce que je faisais, c'est-à-dire le fait que pour lui, c'est nécessaire d'en finir avec le capitalisme. Pour la raison toute simple, qu'il énonce assez tôt, qui est que le capitalisme, par essence, va rendre la vie impossible sur Terre. Enfin, la vie humaine, en tout cas. Disons, la vie humaine impossible sur Terre. Ou très très difficile. Et ensuite, il y a d'abord une analyse du capitalisme, qui reprend en partie de Marx, mais pas seulement, parce qu'il pense que Marx est trompé. Et après, il va y avoir, il va positionner le communalisme justement par rapport à Marx, mais aussi par rapport à la tradition anarchiste et par rapport à la tradition syndicaliste révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, lui, à la fin de son parcours intellectuel, politique et dans les 20 dernières années de sa vie, il ne se dit plus anarchiste, parce qu'il pense que le communalisme, c'est une autre proposition. Et il essaie de faire une espèce de synthèse au sens un peu hegelien, quoi, aussi de dépassement, et du marxisme et de l'anarchisme, qu'il estime insuffisant pour répondre aux problèmes actuels, parce que justement lui, en gros, une de ses idées, c'est que il faudrait surtout pas, en quelque sorte, fossiliser
les pensées du 19e siècle et en faire des panacées plutôt, c'est-à-dire des remèdes universels pour les problèmes actuels. Parce qu'ils pensent que justement, la situation nous a montré les limites des théories à la fois, marxistes et anarchistes.
Donc les limites du marxisme, alors, du coup pour le coup c'est des critiques anarchistes classiques, c'est-à-dire pas d'avenir dans l'État et par l'État.
Alors il y a ça.
Ouais.
Alors l'État il le refuse. Mm-hmm. Ce qu'il va reprocher au marxisme, c'est la surestimation finalement et une erreur de prévision sur la place de la classe ouvrière.
Ok.
C'est-à-dire, justement, lui, il pense que le capitalisme est très, très dynamique et que, ça, Marx le disait déjà, et qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur la classe ouvrière parce que les classes sociales se sont divisées sous l'influence, justement, de la division du travail. Et on ne peut plus simplement penser à juste la en classe ouvrière va prendre le pouvoir.
Donc c'est un raisonnement, une critique du capitalisme post-classe, quoi.
C'est ça, aussi. Donc ça, c'est un premier truc par rapport au marxisme. Ensuite, Par rapport aux anards, oui, donc pour lui, le... Crac... donc lui, oui, il reconnaît une dette envers Marx. Et ça, c'est le souci... oui, le souci c'est qu'effectivement, c'est ça, c'est ce que je te disais, un ouvriérisme. Ensuite, par rapport à l'anarchisme, sa critique, elle va être à plusieurs niveaux. Et d'une part, une critique de ce qu'il appelle lui l'anarchisme, et la critique de l'anarchisme pour Bookchin qui est américain, c'est une critique de l'individualisme.
Okay.
C'est-à-dire que, là je le cite, l'anarchisme représente en fait l'expression la plus extrême de l'idée d'autonomie absolue, telle que la conçoit l'idéologie libérale. Culminant dans la célébration d'actes théoriques de défis lancés à l'État, le mythe anarchiste de l'autorégulation, l'affirmation radicale de la primauté de l'individu sur la société, voire son opposition à celle-ci, ainsi que le rejet de toute responsabilité individuelle vis-à-vis du collectif, mène à la volonté de toute puissance, si centrale dans les errances idéologiques de Nietzsche. Donc, mais ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment lié au contexte américain.
Ouais, que t'as une tradition effectivement anarchiste beaucoup plus individualiste aux États-Unis. Moins marqué par y compris l'engagement anarch dans les syndicats et par l'anarcho-syndicalisme. Mais quoique, en fait, il y a eu aussi un anarcho-syndicalisme fort aux États-Unis.
Et donc il le critique aussi.
Ok.
Parce que justement, il dit l'anarchisme a souvent été conflué avec le syndicalisme révolutionnaire, mm-hmm. une forme très structurée de syndicalisme libertaire de masse, qui, au contraire de l'anarchisme, s'est depuis longtemps engagé à respecter les procédures démocratiques et la discipline dans l'action. Mm-hmm. Et. Le truc, c'est que lui, alors après, il va critiquer justement le syndicalisme révolutionnaire. Il va dire qu'il est atteint d'une pathologie appelée ouvriérisme. Mmh. Parce que là, on retrouve finalement la théorie de Marx qui va critiquer. Trop d'importance accordée à la classe ouvrière, qui de fait, historiquement, s'avère inexacte. Et ensuite, ce qu'il va critiquer, c'est, ça on a fait aussi des émissions là-dessus, c'est la place de la grève générale. C'est-à-dire, son idée, c'est que, en gros, il dit, voilà, malgré la valeur indéniable que porte la grève générale comme prélude à une confrontation directe avec l'État, elle n'a décidément pas le pouvoir mystique de transformation sociale que lui ont prêté les syndicalistes révolutionnaires. Ses limites sont les preuves criantes qu'en tant que forme d'action directe ponctuelle, la grève générale n'est pas équivalente à la révolution, ni même à des changements sociaux profonds, qui supposent un mouvement de masse et nécessitent des années de gestation, ainsi qu'une compréhension claire des moyens et des fins. En réalité, c'est l'anti-intellectualisme ouvriériste, inhérent au syndicalisme révolutionnaire, qui, par son mépris de toute tentative pour définir des orientations révolutionnaires précises et sa révérence pour une spontanéité prolétarienne, l'a parfois conduit à sa perte. Et donc, en gros, ce qu'il critique, c'est le mythe de la grève générale, et il pense que c'est insuffisant pour une transformation profonde de la société. Et derrière, il y a une idée qui est assez intéressante, je crois. C'est quelque chose aussi. De toute façon, je suis pas sûr qu'il avance. Un des avantages de son bouquin, c'est que il essaie d'argumenter et il prend les trucs un par un. Ensuite, je suis pas sûr que c'est un militant politique avant tout. Je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup forcément d'idées originales. Après, ce qui m'a à mon avis.
Là, c'est un peu rapide quand même. Hein.
Oui, c'est un peu rapide.
Ouais.
De toute façon, c'est un programme.
Ouais.
Et ensuite, lui, ce qu'il va dire, c'est. Il ressort de ses observations donc, que les marxistes, les syndicalistes révolutionnaires, tout comme les anarchistes authentiques, et ça je pense que c'est une critique qui est importante, ont une compréhension faussée de la politique. Et donc là, il va redéfinir ce que c'est que la politique selon lui. Celle-ci devrait être entendue comme le cadre institutionnel dans lequel citoyens et citoyennes gèrent les affaires de leur communauté selon les principes de la démocratie directe. La gauche a trop souvent pris la technique d'État pour de la politique, alors que ces deux notions sont totalement différentes, voire s'opposent radicalement. Et donc ici, je pense que, alors, ça se voit à plusieurs niveaux. Une des critiques qu'il va faire, qu'on trouve un peu partout, et qui pourrait être peut-être opposée, qui est peut-être assez juste avec tous les mouvements du 19e siècle, que ce soit le libéralisme, le communisme ou l'anarchisme, c'est finalement de se dire que le régime idéal abolirait la politique. Et que on pourrait finir par
gestion
des choses, comme disait Saint-Simon. Et donc lui, un de ses trucs, c'est non, la politique c'est essentiel et la politique c'est pas simplement gérer les affaires. Ce qui fait qu'à partir de là, tu peux critiquer Proudhon. Alors Proudhon, on va dire, il pensait pas qu'à une organisation dans les usines, il pensait aussi à une organisation politique parallèle. Mais malgré tout, on peut se demander sur quoi tient-elle. Pareil pour la grève générale. La grève générale, c'est la prise de contrôle des usines. Et une fois que tu contrôles les moyens de production, d'une certaine manière, tu contrôles tout et c'est fini. Et donc là-dessus, lui, il veut réintroduire, en quelque sorte, une définition de la politique, je pense. Alors, justement, et de ce point de vue-là, ça va aboutir aussi, par exemple, et donc à une critique... à la fois, enfin, de la confusion qui a eu lieu, selon lui, à gauche, entre d'un côté le politique et de l'autre côté l'État. Et lui va vouloir complètement distinguer ça. Ce qui va aboutir à d'autres différences. C'est-à-dire que, par exemple, lui, pour lui, l'État, c'est quoi ? C'est l'instrument par lequel une classe régule et contrôle de manière coercitive, à l'aide d'une classe dirigeante, les faits et gestes d'une classe qu'elle exploite. Donc, pouf, ça c'est l'État, ça c'est classique comme définition. Mais pour lui, il ne faut pas confondre ça avec le gouvernement. Et le gouvernement, c'est quoi ? C'est un ensemble d'institutions conçues pour gérer les problèmes de la vie en société de façon harmonieuse et espérons-le juste.
Donc il vise une forme de gouvernance démocratique.
C'est ça.
Direct.
Oui. Okay. Et donc, ça implique que, par exemple, le problème du pouvoir, selon lui, ne peut pas être esquivé. Au contraire.
Et qu'il ne peut pas être réglé non plus par une révolution qui s'inscrirait sur le mode de réappropriation des moyens de production ou ce genre de choses. Les problèmes politiques resteront ouverts après.
C'est ça.
Ils sont là avant et ils resteront ouverts après. Et donc, il faut réfléchir à la manière dont on s'y organise derrière.
C'est ça.
Bon. Est-ce qu'on fait une première pause musicale ?
On fait une
première pause. Et puis, on reprend après là-dessus. Voilà.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, hein, la radio de la Fédération Anarchiste. La voix sans dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir qui reprend pour son deuxième temps ce soir. Vous venez d'entendre un groupe qui s'appelle Google Murray Bookchin. Alors ça tombe bien puisqu'on parle d'un livre de Murray Bookchin ce soir. Et en fait il s'agit de la rêve de Matrix qui est remixée par un Reloaded Ex-Praxis Communalista. Voilà. Donc on peut pas imaginer plus pertinent comme référence une fois de plus de la part de José, dans la mesure où Michel, tu nous parles ce soir de d'un livre qui vient de paraître aux éditions Agon de Murray Bookchin, donc qui s'appelle La Révolution à venir, Assemblée populaire et promesses de démocratie directe, et qui développe une forme de programme un peu à l'ancienne, on va dire un peu à l'époque des grandes utopies libertaires du 19e siècle, et dans lequel Murray Bookchin développe sa vision de ce qu'il appelle le communalisme, qui présente donc comme une espèce de théorie politique, un programme politique, un programme de gouvernement démocratique direct radical, qui tient à distinguer ce que tu me disais juste avant, hein, des utopies et des programmes tirés de la gauche ouvrière révolutionnaire, hein, qu'il s'agisse aussi bien du marxisme, de l'anarchisme, du syndicalisme révolutionnaire, et à qui il reproche notamment une forme d'ouvriérisme à ses yeux excessif, on pourra en reparler, il y aurait beaucoup peut-être à dire là-dessus, mais aussi une certaine focalisation sur la question de l'État, tu disais, et qu'il cherche lui à dépasser par des formes d'organisation politique sur la durée, et qui serait libéré de cette obsession étatiste.
Alors parfois le bouquin de Murray Bookchin fait un peu me donne un peu l'impression du genre venez chez moi, j'ai résolu tous les problèmes, et si vous faites ce que je vous dis, vous serez heureux. Donc on pourrait nous distribuer des espèces de flyers à la sortie des concerts en disant allez voir Murray Bookchin, il résoudra tous vos problèmes. Vous êtes opprimé, vous êtes dominé, le communalisme résoudra vos problèmes. Donc évidemment, ça suscite nécessairement le scepticisme. On peut pas trop y croire, quoi. Alors, mais en même temps, comme je l'avais dit, c'est un livre rouge.
Oui. Et sur la focale sur l'État, là, du coup, est-ce que t'as été interrompu par la rêve de Matrix?
Oui, c'est ça. Alors, la focale sur l'État, malgré tout, je trouve que, la distinction entre l'État et le gouvernement me semble pertinente. Le fait de considérer le pouvoir comme un fait présent dans les sociétés humaines avec lequel il faut composer plutôt que d'être dans le déni me semble aussi très pertinent. C'est-à-dire que nier la hiérarchie abstraitement, Bookchin le dit à plusieurs reprises, abolir la hiérarchie en fait ne mène pas à grand chose. Il faut plutôt reconnaître qu'il y a des relations de pouvoir entre les êtres humains et essayer de les gérer pour les rendre les moins nocifs possibles.
Et peut-être les moins hiérarchiques quand même.
Et peut-être les moins hiérarchiques possibles dans la mesure.
C'est l'idée que que les rapports de pouvoir disparaîtraient après une révolution réussie, au fond.
C'est ça. Il l'attaque.
Qui trouve illusoire.
Il trouve complètement illusoire. Et il trouve au contraire qu'il faut prendre le problème du pouvoir à bras le corps pour justement essayer de diminuer la nocivité des relations de pouvoir. Donc là, il est à la fois fidèle et critique à l'égard de la tradition anarchiste. Donc la focale sur l'État, l'idée que effectivement de toute façon toute société humaine est organisée et que ensuite ce qui compte c'est de choisir l'organisation, si c'est possible, c'est une vraie question, je pense. Est-ce qu'on peut choisir notre mode d'organisation? Ça c'est un peu le rêve des Lumières, qui s'opposerait à une espèce de tradition. On hérite de nos modes d'organisation et on doit faire avec. Bookchin, là, il est conforme aux Lumières. Non, on peut les modifier. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on les modifie? Et donc là-dessus, lui, ce qu'il va dire ensuite, c'est il faut prendre en compte, le fait que l'histoire a changé depuis le 19e siècle. Et, comme il dit, se contenter aujourd'hui de ressusciter le marxisme, l'anarchisme ou le syndicalisme révolutionnaire en leur attribuant une sorte d'immortalité idéologique, c'est empêcher l'émergence d'un mouvement radical adapté à notre monde. Ce qu'il faut, c'est envisager l'ensemble des problématiques actuelles dans une nouvelle perspective globale et révolutionnaire, afin d'inciter la majorité des citoyens à s'opposer à un système capitaliste protéiforme et en perpétuelle évolution. Donc bon, d'un côté il enfonce des portes ouvertes, d'un autre on peut quand même que lui donner raison. Alors, après, Voyons voir. Ouais, donc je disais sur le... Oui, par rapport à l'État. Une de ses idées, c'est que malgré tout, l'État est un ennemi. Et que l'État cherchera toujours à imposer une, la logique des classes dominantes. Ensuite, le communalisme, lui précisément, en quelque sorte, semble... Mais ça, je crois qu'on a déjà parlé, quand on avait parlé du populisme en Espagne et du mouvement, justement, du mouvement des communes en Espagne. C'est toi qui avais parlé du bouquin ?
Sur le mouvement anarchiste barcelonais ?
Non.
Ah oui, non, sur la municipalisation.
Sur la municipalisation.
Ouais, ouais. Ouais, post-Podemos.
C'est ça.
Ça ne rajeunit pas tout ça.
Non, ah non. Mais malgré tout, je pense que tu trouves en quelque sorte la matrice théorique de ce qui s'est passé en Espagne à ce moment-là, chez Bookchin. C'est-à-dire que son idée, là, un peu conforme aux anarchistes, c'est qu'il ne s'agit pas de, en quelque sorte, prendre le pouvoir d'État, il faut détruire l'État. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on le détruit et pourquoi est-ce qu'on le remplace ? Et donc, lui, j'ai l'impression que ça, comment dire, sa stratégie, c'est d'essayer de noyer l'État en faisant monter l'eau peu à peu du bas.
C'est-à-dire d'une organisation communale avec des assemblées communales qui fonctionnent sur la démocratie directe et des mandats révocables.
C'est ça.
Ah, dis donc.
Ouais.
T'es sceptique ?
Non, pas du tout. Mais je vois la cohérence.
Tu vois la cohérence ? Et donc l'idée, c'est justement, en quelque sorte, on commence à s'organiser en bas,
entre voisins,
entre riverains, limite entre riverains. Alors non, parce que lui, justement, alors, un truc qu'il dit, c'est que alors ça, malgré tout, il prend le truc au sérieux. C'est-à-dire, il dit.
Mais je fais de l'ironie beaucoup trop vite dans ton exposé là.
Ça m'étonne pas de toi. Ça, bon. Ça a toujours été trop ironique. Comment est-ce qu'on peut faire la révolution avec des gens comme toi ?
Moi, j'ai des voisins.
Moi aussi, mais tout le monde a des voisins, Jean-Mathias. Tu te crois original parce que tu as des voisins ? Ça suffit.
Pas, je sais pas. Bah alors, vas-y, donc comment ça s'organise cette affaire-là ? Comment on fait ?
Et donc, l'idée, c'est simple. Voilà, les communes s'organisent petit à petit.
Ouais.
Déjà au niveau, à leur propre niveau.
Ouais.
Et il prend en compte le fait, par exemple, malgré tout, qu'il y a un côté conseilliste. C'est-à-dire, justement.
Conseil municipal.
Les gens discutent. Alors, pour lui,
il remplace les conseils ouvriers et paysans par le conseil municipal.
Oui,
d'accord.
Ce qui fait que déjà, t'as plus d'ouvriérisme parce que t'as les gens qui vivent. Ensuite, à son avis, tu règles un autre problème qui est l'implication des gens, au sens où les gens sont concernés par les problèmes de leur voisinage, de leur commune. C'est-à-dire que plutôt que tu vas pas forcément les politiser à travers des grandes questions, comment dire, nationales ou internationales, tu les politises déjà à travers
le localisme.
Le localisme, voilà. Ce qu'ils vivent, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, etc., etc.
La démocratie version circuit court.
Voilà. Sachant que
une espèce de grande AMAP, en fait.
Une espèce de grande AMAP, mais avec du trotskisme dedans.
Ah.
Alors ça, il ne le dit pas comme tel, et à mon avis, il ne serait pas content qu'on le dise ainsi. C'est qu'il dit, après, évidemment, à ce niveau-là d'un AMAP municipal, comment est-ce qu'on fait pour que la propagande ne l'emporte pas, enfin que la démagogie ne l'emporte pas, oui. Ben, il faut noyauter.
Ok.
En gros, il faut des groupes de militants qui vont essayer de politiser le truc. Et il dit, ben, ce ne sera pas facile parce que, ben, en gros, alors là, c'est un passage assez intéressant où il dit que ça rejoint un petit peu ce dont on parle parfois. Et ça pose, à mon avis, de vrais problèmes. C'est-à-dire que... comment ? Alors lui, il est contre le consensus aussi, bien oui. Pour lui, le consensus, c'est surtout pas un truc à chercher. Il est plutôt pour le vote majoritaire, parce qu'il pense que quand on cherche le consensus, on va forcément, comment dire, aboutir à des trucs qui sont soit bloqués, où tu peux être complètement bloqué par une minorité, et où, de fait... tu vas jamais pouvoir avancer. Et donc là, il est contre. Et donc, lui, il va dire ensuite, comment est-ce qu'on empêche les individus de prendre le contrôle des assemblées par le contrôle, par la démagogie ? Il dit, il faut un groupe révolutionnaire organisé, oui, une faction, engagée dans la recherche de la vérité, l'exercice de la rationalité et la promotion d'une éthique de responsabilité publique.
Ah oui.
Alors ça, c'est...
Des militants communalistes professionnels.
C'est ça. L'avant-garde révolutionnaire de la commune. Okay. Mais on est trop ironique, Jean-Mathias.
Bah oui.
Mais ici, ça pose la question de savoir si tu peux concilier d'une certaine manière la recherche de la vérité et la politique. Ce qui n'est pas du tout évident. Ça pose aussi le problème de dans quelle mesure est-ce qu'on peut injecter du rationalisme dans un projet politique visant plus de justice. Parce que, justement, son idée, c'est que ses militants à lui échappent à la démagogie. Et vont proposer ce qu'on peut proposer à partir d'une réflexion établie sur des faits. Je sais pas trop. Ensuite, il n'est pas conscient aussi du fait, à un moment, il dit, voilà, à un moment ou à un autre, l'État va nous tomber dessus. L'État, c'est l'ennemi. Comment dire, il faut pas ignorer, c'est pas du réformisme. Pourquoi? Parce que à un moment il va y avoir
confrontation.
Il va y avoir une confrontation, il va y avoir une bascule. Simplement, lui, son idée, elle est en quelque sorte temporelle, c'est que il faut pas imaginer en quelque sorte le changement de la société après la révolution. Il faut l'imaginer avant, pour que justement on soit prêt à affronter l'État au moment de bascule. Alors après, là, je suis pas sûr qu'il soit très très original, par exemple, par rapport au syndicalisme révolutionnaire en réalité. Je te vois lever les yeux au ciel.
Non, je, pas du tout.
Si, t'as levé les yeux au ciel.
Non, mais en fait, alors, il y a, si tu veux, ça rappelle beaucoup de choses, en fait, évidemment, oui. Parce que si tu veux, c'est des formes de ces formes de communalisme libertaire, là, si tu veux, tu les retrouves. Et c'est, tu les retrouves dans beaucoup de sociétés, un peu à travers le monde. Moi, enfin, que soit en Kabylie, ou que soit au Rojava, ou que soit dans, voilà, ça correspond aussi. Alors, il me semble que ça semble correspondre, et ça trouverait, et ça trouve des échos dans des formes de sociétés encore marquées aussi beaucoup par des sociétés rurales, des formes de sociétés rurales, soit village, soit gros village.
Alors lui, là-dessus,
je parle en oui. Concret, si tu veux.
Hein, lui, c'est un fervent partisan des villes. Il pense que les villes sont la base d'une société rationnelle et égalitaire. Mais vas-y, continue.
Non, mais parce que si tu veux, ce type d'organisation-là, en fait, il existe en réalité. Oui. Il existe, il fonctionne tant bien que mal. Enfin, il pose aussi quand même un certain nombre de problèmes, des problèmes d'égalité, des problèmes de respect des droits, la question des minorités, les questions des rapports de l'égalité homme-femme, pour
aller vite.
Mais en fait, bon, c'est des questions qui sont après ouvertes, après. Et dans le Rojava, enfin, c'est assez spectaculaire aussi, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'est pas. Après, moi, c'est vrai que je suis toujours un peu, perplexe par rapport au phénomène d'échelle et puis à l'espèce de non prise en compte des contradictions qui peuvent exister. Enfin, je sais pas, parce que tu vis dans la même, et encore plus à l'échelle d'une ville, c'est pas parce que t'es l'habitant de la même ville que t'as les mêmes intérêts, que t'as les mêmes, et si tu veux du coup balayer les questions d'opposition de classe ou même de conflit d'intérêts, tout simplement, en disant ça se règle à la majorité, elle est bon, tu vois. Si t'as déjà vécu à côté d'un camp de Rome, par exemple, dans une ville quelconque, c'est un peu rapide de dire qu'en fait tu règles les questions uniquement à la décision majoritaire, parce que t'as des associations de riverains, en fait,
qui vont dégager les Roms
très très majoritairement, très majoritairement. Ouais. Hein, alors tout militant communaliste révolutionnaire à la recherche de la vérité, de l'égalité. L'égalité proportionnée, voilà. Donc, en fait, bon, c'est ça part un peu. Mais peut-être, bon, je vais peut-être vite là, dans ma critique. Mais c'est vrai que autant je le trouve aussi rapide dans les siennes. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, que ce soit l'anarchisme et le modèle confédéral,
Platon, ouais, non, Platon, c'est pas un modèle confédéral. Il est pour un modèle confédéral.
Confédéral, une confédération de communes.
Oui.
Ouais. Bon, confédération de communes, effectivement, où l'anarcho-syndicalisme, c'est aussi un modèle confédéral, confédération syndicale. Pour le coup, dans le rapport au travail, t'as quelque chose aussi de très très concret, très direct, où la question des intérêts, des conflits d'intérêts, me semble, à mon avis, au moins aussi bien posée et clarifiée qu'à l'échelle communale. Après, c'est pas forcément incompatible non plus, ces questions-là. Et preuve en est, encore une fois, c'est pour ça que je suis un peu l'ironie de minute, c'est que l'expérience du Rojava actuellement, effectivement, les apatistes fonctionnent de cette manière-là aussi depuis 94. Hein.
Ouais.
C'est un programme qui est pas complètement théorique, qui est pas complètement utopique, en tout cas.
Après, moi, ce qui me semble intéressant, là, je présentais un petit peu le premier article, parce qu'il y a pas mal d'articles dans le bouquin là, de Bookchin, La Révolution à venir, Assemblée populaire et promesses de démocratie directe. C'est des articles de sa fin de vie, en gros, qui s'échelonne dans la fin des années 90, début des années 2000, où c'est en quelque sorte c'est une espèce de livre à la fois programme et un petit peu bilan pour lui. Et donc là, effectivement, j'exposais surtout, en quelque sorte, son utopie.
Ouais.
Et donc, et les problèmes là dont tu parles sont souvent abordés. C'est-à-dire, par exemple, alors est-ce que je peux trouver le truc ? Bon, comme pas mal d'anarchistes, là aussi, de toute façon, il est dans cette lignée-là, malgré quoi qu'il en dise, il revendique aussi de cette lignée-là. Comment dire ? Il va aussi, par exemple, revendiquer, il dit voilà, les conflits de classe, il les connaît. Il reste certes des conflits de classe, mais ils se déroulent de plus en plus loin sous le seuil de la lutte des classes. Ah oui. Ici, l'idée, c'est que justement, ça, ce serait contre le marxisme. Éventuellement, c'est pas forcément ce que, par rapport à ce que tu disais sur les, il va dire la lutte des classes. Ça, c'est la vision marxiste des choses, qui suppose qu'il y a d'un côté seulement les capitalistes, de l'autre côté les prolétaires. Et le capitalisme nous a montré qu'en réalité, on pouvait faire toute une espèce de millefeuille avec tout un tas de conflits différents. Et donc, par exemple, il va dire, voilà, en réalité, même si nous parvenions à établir une organisation sociale sans classe, libérée de toute exploitation économique, serions-nous pour autant sur le point d'accomplir une organisation sociale rationnelle ? Les femmes, les jeunes, les handicapés et handicapées, les personnes âgées, les personnes de couleur, les groupes ethniques opprimés, la liste est longue, seraient-ils libérés de la domination ? La réponse est un non catégorique. Ce que confirmeraient certainement les femmes, même au sein des mouvements socialistes et syndicalistes. Faute d'éliminer les anciennes structures hiérarchiques et de domination d'où les classes et l'État ont émergé, nous n'aurions réussi qu'une partie des transformations nécessaires à l'accomplissement d'une organisation sociale rationnelle. Il subsisterait un poison historique au sein de notre société socialiste ou syndicaliste, la hiérarchie, et ce poison n'aurait de cesse d'en saper les idéaux les plus élevés, à savoir l'accomplissement d'une société véritablement libre et écologique. Donc là-dessus, malgré tout, il est quand même conscient de tout ça. Et il va débattre.
Oui, mais le problème qu'il impute aux autres, ouais. Si tu veux, il est réel. Hein. Moi, ça, là-dessus, je pense qu'il a raison. Mais de toute façon, en fait, c'est très nouvelle gauche, des années 70 américaines, ça. En fait, effectivement, le fait et c'est pas complètement, il a pas complètement tort là-dessus. Ouais. Mais comment lui, il les règle ces problèmes-là ?
Ouais, il les règle, ben.
En quoi l'échelon communal, si tu veux, et le localisme et la démocratie directe à l'échelle d'une commune règle ces problèmes-là ?
Ben, lui dit que malgré tout, évidemment, il est obligé de rajouter des trucs, c'est-à-dire en particulier l'éducation. Il insiste aussi sur une dimension idéologique, c'est-à-dire malgré tout, je pense que c'est ce qu'il dit sur ces petits groupes de communalistes rationnels.
Ça, c'est pas hiérarchique.
Animés par.
Animé par le désir de vérité.
Là, pour le coup, c'était ironique.
Oui. Donc, et clairement, à mon avis, une vision aussi normative derrière. C'est-à-dire, après, il ne dit pas forcément. Alors, après, comment est-ce qu'il veut imposer cette norme égalitaire qui serait censée quand même nous débarrasser du poison de la hiérarchie ? Là, il revient aussi à des thématiques anarchistes assez classiques qui sont celles de l'éducation. Et après, comment est-ce que sa vision communaliste pourrait résoudre le problème ? Là, je suis pas sûr qu'effectivement.
Bah, tu vois, c'est ça la question. Qu'est-ce que le changement d'échelon et le changement de.
Ben lui, je pense qu'il insiste.
De circonscription, je dirais. Tu vois.
Je pense que c'est dans le rapport interindividuel, c'est-à-dire il voit deux choses dans la commune. Tu sors de ta famille.
Ouais.
Et donc tu t'exposes à du nouveau. Et le souci de la ville, c'est que ça peut, en quelque sorte, tu peux former des gens qui sont isolés les uns des autres et qui se connaissent pas. Et si tu, si tu mets une espèce d'échelon de gestion des affaires communes, peut-être que les gens sont obligés de prendre en compte les intérêts des uns des autres. Et donc, malgré tout, discuter et de se connaître les uns les autres, ce qui peut aboutir quand même, peut-être, à des décisions qui seront moins du genre on chasse les Roms parce que ils font baisser le prix de l'immobilier. Ce qui suppose qu'on laisse les Roms participer. Aussi.
On se fait une petite pause, ouais. Et puis on reprend la discussion après. Mmh.
Croissance, il faut que ça avance. Plus de chiffre d'affaires, l'actionnaire est vert. Petit porteur, un coup pour du beurre. On s'enlise dans la crise. Triste spectacle, c'est la débâcle.
C'est la brise.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend pour son dernier temps sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la radio de la Fédération Anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre EQ Système, c'est d'un morceau de 2008 qui s'appelle Croissance. Et on vous parle ce soir avec Michel d'un livre de Murray Bookchin qui s'appelle La Révolution à venir, Assemblée populaire et promesses de démocratie directe, qui vient de sortir aux éditions Agone. Et tu nous expliquais donc, Michel, là, dans le précédent quart d'heure, là, comment, en fait, Murray Bookchin avait l'ambition, finalement, de renouveler un peu les programmes révolutionnaires hérités du mouvement ouvrier, en essayant à la fois de s'en inspirer et de proposer une nouvelle échelle pour réorganiser la vie politique de manière révolutionnaire, à commencer par maintenant, à commencer cette révolution maintenant, à l'échelon local, à l'échelon des communes, par des formes d'assemblée générale et de démocratie directe, aiguillée et contrôlée quand même par des militants communalistes éclairés. Et alors, le principal avantage de ce système, d'après lui, c'est de ne pas se faire d'illusions sur les vertus d'une révolution du grand soir, en quelque sorte, hein, ou d'une révolution d'un coup de baguette magique par la réappropriation des moyens de production, réglerait tous les problèmes politiques et serait ensuite, synonyme d'un système dans lequel il n'y aurait plus de rapport de pouvoir, il n'y aurait plus d'hiérarchie, dans lesquelles les gens, du coup, ne seraient plus amenés à exercer des rapports de domination les uns sur les autres. Donc effectivement, on se disait que l'échelon local était pas forcément la panacée telle que lui le présente, mais on peut au moins dire que...
Oui, non, parce qu'en fait, là, je retombe sur un passage où justement, il est très très conscient de ça, et c'est pour ça que je pense que ce livre mérite d'être lu, parce qu'il propose une solution et il l'explore réellement.
Déjà, il pose des bonnes questions, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de dire que il faut pas confondre l'État et le gouvernement, et que la question de savoir comment se gouverner et comment se gouverner nous-mêmes après, pendant et après la révolution est une question qui de toute façon reste centrale, et qu'il n'y a pas de disparition des rapports de pouvoir magiques après la révolution, et que donc il faut se poser cette question-là de savoir comment on s'y prend. Hein, donc déjà les questions sont bonnes. Alors les solutions, je sais pas, c'est peut-être tu veux
dire pareil. Mais par exemple, il va dire ni la décentralisation ni l'autosuffisance ne sont en elles-mêmes nécessairement démocratiques. La cité idéale que décrit Platon dans la République était en effet conçue pour être autosuffisante, mais dans le seul but d'entretenir une élite de guerriers et de philosophes. Il va dire, au risque de paraître excessif, je me sens obligé de souligner que les notions de décentralisation, de localisme, d'autosuffisance et même de confédération, prises séparément, ne suffisent pas à garantir une société écologique et rationnelle. De fait, toutes ces notions ont donné lieu à un moment ou à un autre de l'histoire, à des communautés au chauvinisme intolérant, à des oligarchies et même à des régimes despotiques. Il est certain que sans les structures institutionnelles qui font de notre usage de ces termes une constellation, et sans combiner ces notions entre elles pour les mettre en œuvre comme un tout intégré, nous ne pouvons espérer parvenir à une société écologique libre.
Donc c'est la perspective d'une confédération communale, on pourrait dire. Hein,
il y a ça. Oui, et la confédération doit justement, il le dit à un moment, parce qu'on en parlait là, hors antenne, le problème des contre-pouvoirs. On imagine un système d'organisation du pouvoir et du gouvernement. C'est quoi le contre-pouvoir? Il va dire la confédération comme contre-pouvoir. C'est-à-dire que justement, il va essayer de montrer, et lui, un de ses trucs, c'est il ne faut pas confondre confédération et état-nation. Et donc ici, la confédération, effectivement, ce serait une structure qui permet à la fois décentralisation, démocratie participative et approche localiste. Et en même temps, justement, empêcher de tomber dans un truc type Sparte, voire même Athènes. Donc là-dessus...
C'est-à-dire un modèle de commune agressif et en concurrence avec les autres.
C'est ça.
Ce qui est un problème, évidemment, central lorsqu'on est dans un modèle de société sans État.
C'est ça. Et donc derrière, je pense qu'il y a aussi, peut-être que... Et lui, il le met en valeur... comment dire, il y a une vision, je pourrais dire, normative forte, c'est-à-dire, il pense malgré tout que si on va dans cette direction, on ne peut pas le faire, pour parler comme les Américains, de façon purement procédurale, en disant, voilà, il faut mettre en place telle et telle institution et les laisser fonctionner. Et on décidera que ce qui sort de ces institutions est forcément juste. Ce que fait un peu Rawls, par exemple.
Il n'y a pas de technologie de la justice, quoi.
C'est ça. Il faut partir dans cette direction avec des valeurs affirmées fortes. en termes d'égalité.
Et donc les transmettre, tout le rôle d'éducation.
Tout le rôle de l'éducation. Et aussi, peut-être, je pense que sa critique du capitalisme ici joue un rôle. C'est-à-dire, elle peut aussi se fonder sur le fait que certains modes de vie sont objectivement destructeurs.
Alors, par contre, peut-être que tu peux dire un mot là-dessus pour terminer. Mmh. En quoi son système est incompatible avec le capitalisme? Qu'est-ce qu'il y a d'anticapitaliste dans ce système-là? Je ne comprends pas.
C'est que, alors, il y a un truc qui correspond tout à fait à ce que disait Durkheim, qui définissait le socialisme comme soumettre l'économie à la politique. C'est que je pense qu'il reprend certaines thèses de cet auteur dont le nom m'échappe, qui disait que l'économie s'était désencastrée l'économiste autrichien là, le fait que l'économie en quelque sorte séparée du reste de la société et qu'elle tourne à vide. Mm-hmm. Et pour lui, le but du communalisme, c'est de soumettre l'économie aux politiques.
Donc c'est la confédération qui décide de qui produit quoi, où et comment.
En partie, mais qui décide aussi que d'un mode de vie sobre, en réalité. Je pense qu'il y a du décroissant derrière. C'est-à-dire que le mode de vie capitaliste étant insoutenable d'un point de vue écologique et aboutissant à la destruction de notre milieu naturel et notre espérance de vie en tant qu'espèce, il faut y mettre un terme. Et là-dessus, on peut plus tourner sur un régime capitaliste qui articule systématiquement l'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation de la nature par l'homme. Et donc là, il y a pareil, c'est quelque chose qui est en termes de normes, qui est une affirmation très forte. C'est-à-dire ça, c'est plus possible. Mais il faut réduire l'économie finalement à quelque chose qui doit satisfaire nos besoins, pas le profit.
Et qui fixe les besoins?
La commune. Mais là encore, je pense qu'on retombe sur des, enfin on retombe, on revient. À une définition, comment dire, à des définitions de normes un peu strictes.
Ouais, mais si deux communes, par exemple, n'ont pas la même conception de leurs besoins,
ça peut mal tourner.
Mmh. Ça peut arriver vite. Hein,
ça peut arriver fait, très
ça
vite.
Ça peut arriver vite.
Ouais. Ensuite, lui, ben, il y a une chose qui est quand même l'idée de, ouais, de, est-ce que c'est soutenable Et qu'est-ce que après évidemment ça pose d'autres problèmes que
ah, ça
que
pose
tu,
des problèmes
que tu suggères
ça pose des vrais problèmes d'échelle si tu c'est veux bah, après je sais pas s'ils sont insurmontables mais ouais. Une commune qui désire satisfaire plus de besoins qu'une autre une commune qui ne fournit pas les marchandises qu'elle était censée fournir par manque de travail par exemple deux communes qui produisent le même type de marchandises et qui sont en concurrence bon
c'est ça.
Voilà, c'est aussi c'est des problèmes assez classiques. Mmh. Mais si tu veux, c'est vrai que, enfin, le moi, je fais de l'ironie sur le style peut-être, sur l'approche. Mais bon, je perds pas de vue encore une fois que t'as des modulations concrètes.
Hein, ah non, mais de toute façon, le gars propose un programme. Je pense qu'il est très très conscient que sur n'importe quel programme, on peut faire de l'ironie.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'
il faut en faire en plus. Il faut la discuter.
Quand je veux dire, si tu veux, que t'as des modulations de ça aujourd'hui, encore une fois, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, même si c'est à l'échelle, voilà, du Chiapas, du Rodiava, ou des communes, ou même d'un scrutin municipal, comme ça a pu être le cas, en Espagne. Enfin, tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Hein. Donc, c'est là pour le coup, je fais pas d'ironie là-dessus. Mais c'est vrai que après, c'est l'espèce d'ambition, si tu veux, un peu programmatique, qui elle est toujours.
Enfin, je pense que ça mêle. C'est ce que je te disais là. J'y pensais grâce à tes questions. En fait, il y a peut-être deux dimensions dans son bouquin. Une dimension programmatique institutionnelle. Mmh. Genre, il faut telles institutions qui s'articulent peut-être pas bien ou qui s'articulent de manière relâchée avec l'affirmation de valeurs qui pourraient finalement fonctionner avec d'autres institutions. Et de même, les institutions pourraient fonctionner avec d'autres valeurs.
D'autres valeurs, ouais.
C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des communes agressives, guerrières, etc. Ça, il ne le dit pas.
Et peut-être même confédérées.
Et peut-être même confédérées. Et de l'autre côté, on pourrait peut-être imaginer, alors je ne sais pas si c'est imaginable, un système capitaliste décroissant. Alors, j'aurais tendance à pas y croire.
Décroissant, non.
Décroissant, non. Mais
un capitalisme confédéré, oui. oui, ça, 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 ça.
Ou peut-être, je sais pas, des formes de libéralisme politique, en tout cas, qui, comment dire, qui sont pas égalitaires, qui sont hiérarchiques et qui sont écologiques. Alors, je sais pas, est-ce que ici, il faudrait voir, est-ce que finalement, tout système hiérarchique est forcément voué à détruire la nature? Est-ce que tout système égalitaire va éviter ça? Je sais pas. Bref. Malgré tout, je pense que
tu conseilles.
Je le conseille parce que ça a inspiré tout un tas de choses. Donc on rappelle Murray Bookchin, La Révolution à venir, Assemblée populaire et promesses de démocratie directe. Donc c'est un bouquin programmatique
qui pose de bonnes questions.
Qui pose de bonnes questions.
Sans forcément apporter de bonnes réponses.
C'est ça qui est un peu chiant à lire. Faut pas le cacher, hein. Mais qui fait réfléchir et qui en plus peut éclairer.
Et qu'en tout cas, des tas de gens trouvent très utile en ce moment pour s'organiser.
Donc, exactement. Et qui peut éclairer pas mal de choses qui se passent dans le monde actuellement, que ce soit justement chez les Kurdes, en Espagne ou ailleurs.
Ou les apatistes. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous laisse avec Chromosome 4. J'en ai marre d'être vert.
Putain, quand je vois ça, moi, je suis vert.
Ah bon? Et t'en as pas marre?
Je refuse d'être blond, ne me faire aucun mal.